Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Et bonsoir et soyez les bienvenus dans La Causerie au 102.2 ou sur radiocadu.org comme quasiment tous les dimanches à 22h. Et cette causerie est enregistrée le 23 à 18h30 à peu près, voilà. 23 avril d'ailleurs, c'est mieux de dire le mois. Et donc ce soir, nous avons autour de la connexion numérique virtuelle Jean-Yves.
Bonsoir Fab.
Bonsoir et aussi Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Et oui, parce que Covid oblige, on fait toujours les émissions à distance, on n'a pas super le choix, mais on utilise donc des outils modernes qui s'appellent Internet, tout ça, pour faire des jolies petites émissions malgré tout. Et elles sont même diffusées de la même façon. Enfin, c'est merveilleux tout ça. Alors, avant d'aller plus loin, on va vous passer un message parce que bah, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il manque quelqu'un autour de la table virtuelle, mais il a un message à passer et il vous l'a envoyé. Via, bah là aussi, des effets numériques, vous allez voir.
Hello, 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 salut à tous, salut les causeuses, salut les causeurs, salut Fab, salut Jean-Yves et salut Clara. Effectivement, là, vous entendez une voix enregistrée dans un enregistrement, donc je ne sais pas, ça fait un peu comme les poupées russes, la boîte dans la boîte. Alors pourquoi exceptionnellement un enregistrement? Voilà, c'était pour faire une petite annonce, hein. Rien de bien extraordinaire, si ce n'est que pour marquer le coup, il fallait faire une petite annonce. Je ne vais pas devenir le prochain candidat à la présidentielle, je vous rassure. Non, tout simplement que je vais, malheureusement, en tout cas moi aussi je le sens comme ça, malheureusement, mais bon, c'est pour... Nouveau départ pour moi, je ne serai jamais loin non plus, mais je vais mettre fin, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt mettre en stand-by, mettre en pause ma présence ici à la causerie, tout simplement parce que j'ai une nouvelle activité qui, on va dire, énergivore, chronophage, qui malheureusement ne me laisse très peu de temps pour, je veux dire, me consacrer pleinement, en tout cas, à cette émission que je kiffe, que j'écoute, bien sûr. Et forcément, pour être honnête avec moi-même et pour être honnête avec vous et pour faire quelque chose de bien et de qualité, je préfère me mettre en retrait pour le moment. Me consacrer à ma nouvelle activité, pour pouvoir aussi profiter un petit peu de mon côté, de ma vie perso. Surtout, familial également, et puis surtout de revenir en forme et en force dans un futur proche. Et je ne quitte pas bien évidemment les ondes du 102.2, mais voilà, en tout cas, c'était pour vous l'annoncer, donc il n'y aura pas de MK la prochaine fois, sauf s'il y a des dédicaces de la part de certains pour moi, et ce qui je prendrai bien sûr chaud au cœur. Ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu. Je vous embrasse tous très 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 fort. Voilà, et puis j'embrasse tous les causeuses, les causeurs. J'embrasse Clara, j'embrasse Fab, j'embrasse également Jean-Yves pour votre soutien, pour votre patience, pour ces coups de rigolade, ces moments de partage voilà, que j'ai passé avec vous qui m'ont fait énormément de bien. Des moments de plaisir que je n'oublierai pas et qui n'ont pas été les derniers. Donc voilà. À tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao.
Voilà, c'était donc un message de MK qui, comme vous l'aurez compris, s'en va un temps, pas définitivement, et qu'on reverra et qu'on retrouvera sur les ondes de la radio. On en est sûr et pas vraiment certain, mais on verra bien ce que ça donne. Voilà.
C'est ça.
C'est comme ça. Mais en tout cas, un merci à lui pour les émissions qu'il a fait avec nous et on espère le retrouver pour en faire de
De
nouvelles.
nouvelles.
Voilà.
Tout à fait.
Et ce soir, une émission un peu spéciale avec un sujet un peu dense au départ. Et c'est toi, Jean-Yves, qui t'y colle. Parce... Oui,
Ben
pardon.
moi, je me permettais juste, c'est qu'on n'a
Comment on nous
pas
contacte?
rappelé aux auditeurs et aux
Oh.
auditrices qui nous écrivent jamais, mais nous, on persiste,
Non,
on
pas
continue.
jamais. Il y en a qui nous écrivent quand même.
C'est
Par
vrai.
mail, c'est très rare quand même. Mais
Bah
on le fait quand
si.
même, mais on le fait quand même. Donc, avant d'entamer le sujet, comme tu disais, sur la Birmanie,
Ouais.
bah, je te propose de faire peut-être un petit rappel des contacts.
Oui, alors pour nous contacter, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com, tout attaché en minuscules. Si tu veux aller sur les blogs, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie, où tu vas sur le site radiocanu.org et tu cherches la causerie, on est là. Et sinon, bah, on est aussi sur des plateformes de streaming qui diffusent des trucs via ton téléphone ou autre. Et on est aussi sur un réseau socio-commercial juste pour se faire de la pub, donc ce n'est pas trop la peine de nous parler par là-bas. Voilà, et donc bah, maintenant, on peut commencer avec Jean-Yves et ton sujet sur la Birmanie et ce qui s'y passe.
Ouais, ok, là je veux bien commencer. Alors, ouais, donc ce soir, ou cet après-midi, enfin bon, ce sera ce soir quand vous écouterez, ou peut-être cet après-midi si vous écoutez en podcast, enfin bon, aujourd'hui, donc j'avais envie de parler de la situation en Birmanie. Hein. Vous vous souvenez peut-être hein, de ce 1er février 2021, avec une vidéo qui a fait le tour du monde. On y voyait une prof d'aérobic s'activer, qui retransmettait sa séance hein, sur les réseaux. Et on voit derrière elle des blindés, des militaires, ce qui était finalement les prémices d'un nouveau coup d'État. Alors il faut savoir que depuis son indépendance en 1948, la Birmanie est régulièrement secouée par des coups d'État, en fait, finalement quasiment que ça depuis l'indépendance. Le premier a eu lieu en 62, 1962, sous les ordres du général Ne Win, resté 26 ans au pouvoir. Le deuxième coup d'État, c'était en 1988, le troisième en 1992, et donc le dernier, le 1er février 2021. Alors, après que l'état d'urgence ait été décrété, hein, bah, la chef du principal parti de l'opposition, une certaine Aung San Suu Kyi, qui est également pardon, la chef du gouvernement, ainsi que des dizaines de députés et de ministres ont également été arrêtés ce 1er février. Alors ce coup d'État, hein, il a été mené par Min Aung Hlaing, qui est à la tête de l'armée depuis 10 ans. Alors il faut savoir hein, quand même que depuis qu'à sa nomination en 2021, eh ben, c'était pour certains et pour certaines l'espoir de mettre fin à 50 ans de dictature militaire et que ça ouvrait à une transition démocratique, l'armée se partageant le pouvoir avec le gouvernement civil. Alors, bon, vu la finalité, on se rend bien compte que c'est certainement pas tout à fait ça. Donc, je vais quand même tâcher de revenir sur semblant de démocratie, je n'ai pas trouvé mieux, qu'il y a eu jusqu'en février. Hein. Donc, pas mal de rappels historiques. Déjà en 2018, il y a une nouvelle constitution qui affirme l'influence et l'autonomie du Tatmadaw. Alors, le Tatmadaw, c'est le nom de l'armée birmane. Ça reviendra peut-être dans le texte. Qui contenait aussi celle du gouvernement civil. Alors, le nouveau texte hein, a cimenté les pouvoirs du, je cite, commandant suprême pour toutes les forces armées, qui permet finalement au général d'organiser son propre agenda, de nommer qui il souhaite et d'avoir le dernier mot pour les affaires militaires. Donc, en plus de ça, le commandant en chef de l'armée a les clés de 3 ministères, pas des moindres. Donc, il a la défense, les affaires frontalières et les affaires internes. Autant dire vraiment presque rien. Donc, si le gouvernement civil finalement promulgue la loi, c'est le militaire Ming Hang Leng qui a une autorité totale pour son application. Et ça va de la police aux douaniers jusqu'à l'administration générale. Bref, l'armée, elle a bien le pouvoir. Alors, malgré quand même toute cette structure au bénéfice de l'armée, la réforme constitutionnelle prévoit quand même, ne sait-on jamais, une clause de coup d'État. Alors, qu'est-ce que cette clause ? Alors, cette clause, coup d'État, c'est un dispositif d'arrêt d'urgence à disposition du commandant des armées. Et dès lors, en fait, Ming Hang Leng peut accorder à l'armée le droit de prendre le pouvoir et d'exercer le pouvoir souverain de l'État si la transition démocratique venait à s'égarer. Il faut penser que le 1er février, on était en plein égarement de la démocratie avançant en Birmanie. Oui, Fab.
Donc ça veut dire concrètement qu'on donne un pouvoir à ceux qui ont installé une dictature de pouvoir arrêter une transition démocratique s'ils estiment qu'elle n'est pas assez démocratique.
Voilà, s'ils pensent qu'elle s'égare. Tu vois, ouais, et penser que des flics puissent imaginer qu'une démocratie s'égare, je pense que c'est un peu risqué.
C'est même des militaires, en l'occurrence, mais c'est...
J'ai dit quoi ?
C'est des flics, t'as dit.
Mais, ah pardon, oui, mais, des militaires, oui, pardon.
Mais c'est vrai qu'en fait, oui, c'est, on voit que c'était tout verrouillé de A à Z depuis le départ, quoi.
C'est un peu ça. Et justement, donc là, on était sur la suite de 2008, etc. Et en 2015, hein, le rôle de Ming Hang Leng, donc le militaire, s'est encore consolidé au moment de partager le pouvoir avec Aung San Suu Kyi, qu'on connaît plus, dans ce qui était nommé un gouvernement hybride. C'est l'hybridation, hein, ça avance quand même. L'écologie est en bonne route. Et il faut quand même savoir que quelques mois avant l'élection de Aung San Suu Kyi, le militaire, en fait, restait quand même assez vague, pour ne pas dire très vague, sur l'issue de la transition démocratique du pays. Il avait déclaré sur la BBC, en fait, que la transition démocratique pourrait être, je cite, « dans 5 ans ou bien 10 », je ne pourrais vous dire. Tu parles d'une fin de dictature militaire, quoi. Donc, alors il faut quand même savoir qu'en plus de la mainmise politique, qu'on voit clairement, de l'armée birmane, économiquement, on peut dire que l'armée est aussi forte et puissante, et voire unique, en fait, c'est la seule. Parce qu'il faut savoir que l'armée dirige 2 grandes sociétés de portefeuille, la Myanmar Economic Holding Public Limited et la Myanmar Economic Corporation. Je vais vite fait faire quand même 2-3 mots là-dessus. Les intérêts en fait commerciaux de la première, donc la holding, la Myanmar Economic Holding, en fait, elle inclut la banque, la construction, l'exploitation minière, l'agriculture, le tabac et la nourriture, ainsi que la gestion du fonds de pension ou système de retraite de l'armée. La deuxième, donc la Myanmar Economic Corporation, elle a été fondée en 1997 pour établir des industries lourdes, rentables, qui peuvent fournir aux militaires birmans un accès aux fournitures de matériaux importants, par exemple ciment, caoutchouc, etc. Évidemment, leur compte échappe au contrôle public, hein, ça va de soi, on ne peut que faire confiance à l'armée, n'est-ce pas ? Mais quand même, selon des groupes de surveillance, en fait, les comptes sont positifs grâce au pillage des ressources naturelles telles que les pierres précieuses, les combustibles fossiles et le bois. Donc, on voit bien, les militaires ont bien quadrillé les structures politiques et économiques du pays, et même s'il y a eu des politiques non militaires au pouvoir, bah, les militaires en fait, ont tout bien prévu pour ne rien perdre de leur pouvoir justement politique et économique, en fait. Donc, quand même, derrière, j'avais quand même envie de vous parler de cette génialissime armée, hein, qui est quand même formidable. Et vraiment, ça se démontre, hein, parce que, quand même, l'armée birmane présente une particularité assez unique au monde, dirons-nous, parce que selon en fait, l'ensemble des organismes internationaux spécialisés dans les enfants soldats, on en a déjà parlé, hein, des enfants soldats, en fait, il est établi que sur les quelque 350 000 militaires de la TAD Madaw, 15 à 20% sont des enfants soldats qui ont été recrutés sans leur consentement, ça va sans dire, ni celui de leur famille. Et en fait, ces chasses, c'est comme ça que c'est dit par les gens qui sont là-bas, ces chasses aux adolescents se déroulent dans les zones dites ethniques. Les enrôlés de force sont immédiatement mutés et enfermés dans des casernes éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation d'origine, on va dire. Et les mêmes méthodes en fait, de RAF sont utilisées dans les zones urbaines, en particulier les banlieues bidonvilles où s'entassent des familles qui ont migré, de la migration, on va dire, interne au pays. Et il faut savoir que l'armée, comme souvent, est très opportuniste, hein, parce qu'il faut savoir que le cyclone Nargis, qui, en fait, le 2 mai 2008, donc ça remonte un petit peu, a officiellement fait 138 000 morts et disparus, surtout dans des zones risicoles du delta de l'Irrawaddy. Bah, ça a permis en fait à l'armée birmane, de faire le plein d'orphelins et supposés tels. C'est formidable, quoi. C'est ce que disent des associations d'aide et tout. C'est que tous ces adolescents, en fait, traumatisés, déracinés, sont soumis toute leur vie, en fait, à un intense lavage de cerveau. Justement, pour entrer, hein, évidemment, dans l'ordre et dans le truc de cette belle armée birmane. Et ça vient se rajouter aux brimades, corvées humiliantes et autres joyeusetés du quotidien des hommes de rang. Et les anciens enfants troupes n'ont pas d'autre moyen finalement de subsistance que de poursuivre en fait dans la carrière militaire. En fait, il n'y a pas d'autre issue pour eux, quoi. Donc
parce que la Birmanie en fait elle est composée d'une ethnie majoritaire, on va dire ça comme ça, et de plusieurs dizaines d'ethnies à côté. Qui d'ailleurs pour certaines ont demandé l'indépendance ou des parts d'indépendance ou des choses comme ça. Mais un des moyens finalement qu'a trouvé l'armée de tenir tout ça, bah c'est d'enrôler des gamins, quoi. Et c'est furieusement dégueulasse, hein, faut le dire, mais c'est surtout malheureusement furieusement efficace.
Ça tue beaucoup de choses en fait, quoi. Ça tue des individus et ça tue aussi toute notion collective, etc., quoi. On en fait des bons petits soldats, mais vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà. Alors, si vous aviez encore un petit peu de doute sur le côté génialissime de cette armée et de ce général, enfin de ce militaire qui a mené le coup d'État, hein, le Min Aung Hlaing, alors sachez quand même que ce cher monsieur, en 2009, s'était fait connaître comme l'étoile montante de l'armée, après avoir réprimé une guérilla dans la région de Kogang, dans la frontière est du pays, provoquant l'exode de 37 000 personnes. Et évidemment, en 2017, la crise des Rohingyas, qui a provoqué l'exode de 740 000 personnes au Bamo, fuyant les exactions des militaires responsables de milliers de morts, ça a un petit peu cristallisé les tensions au niveau international autour de ce général. Mais comme je m'écrivais, non, c'est vraiment un gars bien. Non, vraiment, je pense qu'on peut avoir confiance en lui pour être un garant de la démocratie, en tout cas de la notion de représentativité du plus grand nombre. Je ne pouvais passer évidemment quand même sur ce passage, enfin, sur cette notion, ce rappel du sort des Rohingyas quand même, sans rappeler le silence absolument assourdissant d'Aung San Suu Kyi. Face à la répression et sa passivité, à minima passivité, si c'est pour ne pas dire complicité, elle avait quand même déclaré, sans que je sois sûr vraiment qu'elle y croit elle-même, qu'elle et son gouvernement, je cite, tenaient fermement l'armée et son chef. Alors je me dis, quand on voit la structure, politique, etc., on devine bien qu'elle tenait absolument rien, mais elle tentait, à mon avis, de ménager chèvre et chou. Hein. D'un côté, rassurer l'international, genre, ça va, les Rohingyas, on a la situation en main, et l'armée ne fait rien de mal. Et de l'autre, ne pas fâcher les militaires, ne pas terminer derrière les barreaux en résidence surveillée. Compromission assez habituelle hein, chez les politicards. Là, quand même, à un degré un peu plus élevé, n'est-ce pas ? Mais qui n'aura pas permis à Aung San Suu Kyi d'échapper ni à l'arrestation, ni à la résidence, enfin, ni à vivre sous résidence surveillée depuis le 1er février. Quoi. Donc finalement, son silence a bien été plus complice qu'une quelconque utilité pour la démocratie. Donc quand il faut ouvrir vos gueules, ouvrez-la. N'attendez pas un calcul politique. Et ça, finalement, ça vaut pour cette femme, mais ça vaut pour tout le monde parce que je pense que ces compromissions, ça peut très vite arriver et pas seulement quand on est à la tête d'un pays. Fab, tu voulais dire un truc ?
Oui, c'est qu'en fait, elle a fait un pari politique qui était celui de gagner massivement les élections qui étaient juste avant le coup d'État en se disant, si on gagne massivement les élections, on va pouvoir mettre une nouvelle constitution en place et passer par-dessus l'armée. Le problème, c'est que ce genre de pari, ça peut marcher, mais ça marche uniquement si déjà, un, vous avez la population dans la rue avant avec vous et pas après, parce qu'une fois que le coup d'État est installé, c'est plus compliqué de l'enlever, hein, comme on dit à chaque fois. Et surtout, c'est un petit peu… moi, je trouve qu'elle a sacrifié beaucoup de valeurs dans tout ça. Et du coup, elle a un peu entaché aussi l'image qu'elle pouvait avoir à l'international. Donc, elle s'est retirée le soutien de l'international aussi parce que c'était un pari extrêmement risqué, mais c'est surtout, on lui a retiré, enfin, il y a des gens qui proposaient de retirer le prix de Nobel de la paix, je crois même d'ailleurs qu'on lui a retiré.
Je crois que c'était.
Et donc, du coup.
Et du prix Sakharov aussi, je crois, de l'Europe.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, elle a perdu tous les soutiens qu'elle pouvait avoir à l'international. Cette tentative, en fait, d'équilibre politique, comme tu le disais, d'une tentative d'équilibre politique, on tombe dans la compromission, malgré tout. Parce que elle a laissé, à mon avis, pas forcément volontairement, un boulevard à l'armée pour dire regardez, c'est le bordel. Dès qu'en fait, ils ont perdu les élections, parce que ce qui a déclenché le coup d'État, finalement, c'est le fait qu'ils aient perdu massivement les élections et que du coup, ils se sont dit merde, on va avoir une majorité du Parti démocratique au pouvoir, c'est pas possible, on reprend la main. Et donc c'est vraiment, enfin. Je cherche pas ni à la défendre ni quoi que ce soit, mais on voit que ce genre de jeu politique là. Comme tu disais, c'est très risqué et surtout, ça ne peut fonctionner que si la population comprend. Or là, j'ai l'impression, moi, de ce que je vois, que les Birmans eux-mêmes n'avaient pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de jeu d'équilibre et ça leur est un peu retombé dessus en mode « Ah mince, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
Oui. Et puis, je pense qu'elle a aussi tenu des propos un peu, je crois, limites quand même autour des Rohingyas, etc. Enfin, je pense qu'elle a vraiment misé. Alors, c'est toujours pareil, est-ce que c'était pour l'avenir du pays ou son avenir politique à elle, etc. Enfin, on est toujours quand même dans quelque chose de très compliqué quand on parle du pouvoir politique, même des plus démocrates, etc. On sait très bien quelle compromission ça demande et quelle couleuvre on est prêt aussi à faire avaler à soi-même et aux autres aussi. Quoi. Donc, vraiment,
clairement, dans mes propos, il n'y a pas une volonté de dire elle a bien fait ou mal fait, mais c'est juste que. C'était juste, je me dis, globalement, c'était pas possible avec la constitution telle qu'elle était faite, qu'il n'y ait pas de nouveau un coup d'État. Il fallait être très naïf pour ne pas le voir, pour ne pas imaginer que dès que l'armée verrait ses intérêts touchés directement, elle reprendra la main. Quoi.
Bah oui, ils tapent leur bouton rouge, leur bouton d'urgence contre le chaos et voilà. Quoi. Et puis ils reprennent la main. Quoi. En fait, c'est toute la problématique. Et que ça pose aussi peut-être d'autres questions qui vont au-delà. C'est est-ce que contre une dictature militaire, on peut espérer y arriver pacifiquement par les urnes ? Et là, je ne suis pas en train de faire une bravade, vive la violence armée, etc., parce que ceux qui crèvent, on sait très bien qui c'est aussi.
Alors, pas forcément par les urnes, mais au moins par la masse. Moi, j'ai l'impression que ce qui a manqué à un moment donné, c'est une masse de gens qui s'opposent à une dictature. Parce que finalement, en Europe, on a connu ça avec la chute du mur de Berlin ou des choses comme ça, où la masse fait qu'au bout d'un moment, les dictatures, elles peuvent céder face à un peuple. Quoi. C'est un fait. Mais là, j'ai l'impression qu'il y avait une volonté de passer par le politique pur et par l'électif pur. Et en fait, bah, ça n'a pas forcément entraîné l'effet de masse qui était nécessaire pour empêcher l'armée de se sentir suffisamment puissante pour refaire un coup d'État, en fait.
C'est ça. Ouais. Moi, je continue quand même. Alors, quand même, on peut évidemment aussi pencher un petit peu sur la réaction qu'il y a eu au niveau mondial hein, suite à ce coup d'État. Il y a bien l'ONU qui a évidemment dénoncé les meurtres qu'ont commis les militaires, le coup d'État en premier lieu. De multiples pays ont dénoncé tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Même s'il n'y a aucune sanction finalement qui a été décidée à l'échelle de l'ONU. Pourquoi? Bah parce que la Chine s'y oppose. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à relever, c'est que Chine et Russie, les pouvoirs politiques de ces pays, ont toujours refusé pour le moment de condamner officiellement le putsch. En sachant que ces deux pays sont également quand même des pouvoirs très autoritaires et enfin, l'une, c'est quand même une dictature pure et dure du Parti communiste chinois et militaire. Ils sont vraiment très amis, quoi. C'est-à-dire, c'est un corps, hein, l'armée, hein, finalement internationale. Bref, je plaisante, mais c'est juste parce qu'il faut mieux en rire que de s'en foutre. Bref, du côté économique, il y a des grandes entreprises, en fait, qui réagissent en ordre complètement dispersé depuis le coup d'État. En même temps, on sait aussi très bien les limites d'une pseudo-éthique dans le capitalisme. Il faut quand même savoir hein, que plusieurs ONG ont appelé certains groupes économiques à revoir leurs activités sur place. Par exemple, le géant pétrolier Total, qui est présent en Birmanie depuis 1992, donc bien avant la voie de démocratisation hein, de la Birmanie, qui, en fait, Total a refusé de quitter le pays hein, tout en affirmant qu'ils allaient filer la thune qui donnait l'habitude au pouvoir militaire à des organisations pour les droits humains. Mais là encore, il ne faut peut-être pas se faire trop d'illusions. Et comme le disait un site, d'ailleurs je vous en filerai un peu à la fin, un site d'info, en fait, aujourd'hui, les assos qui sont légalement, on va dire, en place en Birmanie, elles le sont par le pouvoir militaire. Donc, à un moment donné, c'est juste la manipulation capitaliste. Et en même temps, j'aimerais quand même rappeler, on a d'autres groupes capitalistes qui ont été capables de continuer de bosser quand Daesh tenait des lieux. Donc là, on a quoi? Une dictature militaire qui a tué quoi? Quelques centaines de personnes. Le capitalisme se fait bien de ça, s'y habitue très bien. Fab, tu voulais réagir.
Bah, c'est un peu la même technique habituelle des multinationales. En fait, c'est de dire, non, mais ce qu'on va faire, c'est que les dividendes qu'on fait là-bas, promis, on les donne à des associations. Alors, le truc, c'est qu'association, ça ne veut rien dire, hein, comme tu le soulignais. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois que Total fait ça, parce que Total fait ça systématiquement quand il est mis en cause dans des zones, en fait, où bah, soit il pollue, soit il fait travailler, comme en Birmanie, des gens qui n'ont quasiment pas de statut et qui sont quasiment des esclaves. C'est aussi des réalités. Et en fait, bah, c'est très facile parce que, comme tu disais, il suffit de trouver une association fantoche, hein, un truc créé par le gouvernement, un truc comme ça. Vous versez des sous et puis après, vous avez des jolis brevets et vous pouvez même devenir une entreprise éthique en bourse. C'est merveilleux, tout en continuant, bien sûr, à exploiter des gens dans des dictatures, donc tout va bien.
Ah mais tout va bien. À côté de ça, il y a EDF qui, eux, enfin qui lui, le groupe, a jeté l'éponge mi-mars, suspendant, hein, un projet de 1,5 milliard de dollars pour la construction d'un barrage hydroélectrique. Encore une autre marque, dirons-nous, c'est le constructeur japonais Suzuki, qui très vite après le coup d'État avait bah, lui aussi, hein, le groupe Suzuki, mis à l'arrêt ses deux usines locales avant de les rouvrir quelques jours plus tard. Parce que bon, les morts s'entassaient, ils se sont dit, bon, bah, ça ne changera rien, allons-y. Hein. Je suis désolé, je suis cynique, mais c'est juste le cynisme, il est là en pratique. Moi, je ne fais que rajouter un peu de cynisme verbal. Et au-delà de tout ça, quelle était la réaction de la population? Vous en doutez bien, et vous l'avez vu, vous l'avez certainement entendu. Bah, elle a été juste courageuse, en fait, enfin, de mes petits yeux d'ici bien installés. C'est un énorme courage dont ont fait preuve tous les Birmans et les Birmanes qui sont descendus dans la rue. Enfin, vraiment, c'est juste ouf, en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de manifs plus ou moins pacifiques. La démarche était quand même pacifiste au début. Plus ou moins, bah, parce que quand on vous tire dessus à balles réelles, bah, vous tentez au moins de vous en protéger et peut-être même de vous défendre. Mais là, pour moi, c'est de la défense, hein, c'est pas de l'attaque. Donc, on est encore une fois, c'est juste on essaye de pas tous crever sous les coups, sous les balles des flics. Donc voilà. Dans les premières semaines, vraiment avant, après pardon, le coup d'État, les manifestants et manifestantes hein, étaient quand même des centaines de milliers. Aujourd'hui, après quand même les nombreux assassinats qui ont été commis par les militaires, les opposants sont bien moins nombreux. Il y a aussi des formes de manifs qui ont changé pour justement jouer aussi avec ce que permet la loi, etc. Donc, c'est aussi… enfin, ouais, moi, je trouve que je les trouve hyper courageux parce qu'ils comptent leur mort et en attendant, ils continuent d'inventer, de faire autrement. Et juste pour ça, bravo et solidarité complète avec tous ces gens-là, quoi. Et aussi, ouais, pardon. Je voulais rajouter encore juste deux, trois trucs et je te laisse prendre la suite.
Ouais, vas-y, vas-y.
Je voulais quand même aussi rajouter qu'il y a eu des dizaines de milliers de fonctionnaires, mais aussi de personnes qui bossaient dans des boîtes privées, qui ont fait grève pour protester contre le régime militaire. Et ça, c'est pas rien. J'ai quand même, enfin, il y a des textes qui ont tourné sur des gens qui ont été sommés de reprendre le boulot par l'armée, que ce soit des médecins, des gens du boulot qui bossent dans le milieu du pétrole, etc. Enfin, voilà, il y a quand même de l'action et ce n'est pas juste des manifs, c'est aussi des grèves, c'est aussi taper sur l'économique parce qu'on a bien vu que les militaires détiennent absolument tout. Donc, effectivement, il faut appuyer sur, faut taper finalement dans tous les secteurs et vraiment, enfin, moi, je les trouve vraiment dingues, enfin, plein de courage. Je voulais juste, et je termine là-dessus sur ce point des réactions, on va dire, dans le local, les violences et les meurtres commis par les militaires, ça a quand même aussi déclenché la colère parmi la vingtaine de groupes rebelles. Alors, c'est constitué sur des principes ethniques, hein, c'est l'organisation, dirons-nous, sociale birmane. Certains groupes ont déclenché des attaques vraiment contre les forces de l'ordre. On parle de lance-roquettes, de bases militaires qui ont été prises et qui ont été ensuite reprises par les militaires birmans qui, depuis 20 ans, je crois, n'avaient pas fait de bombardement aérien, qui là ont ressorti les avions, etc. Enfin, on n'est pas sorti de tout ça. Et il y a d'autres groupes qui menacent évidemment aussi de prendre eux aussi les armes et de rentrer clairement dans une résistance armée face au pouvoir militaire birman. Fab, je te laisse rebondir.
Oui, en fait, moi, je voulais juste parler des symboles parce que je les trouve plutôt beaux. Ouais. Il y a des gens qui se sont demandé d'où étaient sortis les fameux trois doigts relevés qu'utilisaient aussi les Hongkongais. Et ben, c'est une démonstration en fait que la culture mainstream, des fois, elle parle aussi aux gens. Parce qu'en réalité, ça vient de Hunger Games, hein, en fait, la saga littéraire, parce que c'est plutôt la saga littéraire qui est prise comme exemple. Et pourquoi? Parce que dans cette saga, en fait, eh ben, on a un pouvoir militaire qui opprime 12 districts et qui dit qu'il fait ça pour le bien de la population et pour éviter en fait, que la démocratie ne dérape. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans quelque chose. Voilà, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais pourquoi ils ont repris ce symbole-là, comme les Hongkongais ?» Ben, parce que finalement, c'est exactement le discours qu'il y a dans les livres. Donc, ils se disent, bah, oui, bah, au final, on est les résistants comme dans ces bouquins. Et finalement, d'avoir un signe qui vous unit, ça aide en fait. Et que d'avoir ce signe-là qui, d'un seul coup, est devenu central, bah, ça donne du courage en réalité. Et moi, j'ai lu notamment des rebelles et des révolutionnaires occidentaux dire « mais c'est ridicule de reprendre un signe d'Hollywood ». Ben, en fait, ce n'est pas un signe d'Hollywood qu'ils reprennent, c'est une situation. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans la peau des personnages du livre en se disant « mais on vit exactement ce qu'ils vivent ». Et je trouve vraiment dommage justement d'avoir cette espèce de regard très occidentalisé et très méprisant pour des gens qui sont, comme tu le disais, face à des militaires qui leur tirent des balles dans la tête, dans le dos. Hein. Donc c'est voilà.
Ça.
Non, mais ouais, je voulais juste.
Non, mais tu fais bien de le. En fait, j'ai fait déjà un sujet tellement long que je ne voulais pas rajouter ce truc-là, mais en plus, tu fais vraiment bien. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a. Vu que ça va de Hong Kong en Birmanie, ce n'est pas les mêmes pays, et pourtant, on peut utiliser le même symbole. Et il y a quelque chose, je trouve, d'internationaliste. Alors, on peut me prendre pour complètement con ou je ne sais pas quoi. Sauf que c'est un symbole, et je trouve que bah, ce n'est pas grave en soi. Enfin, ça ne dit rien de plus. Et en même temps, ça en dit déjà beaucoup et ça permet de se reconnaître.
Il y a des images hein, qui ont été diffusées, vous pouvez en trouver, où vous voyez des milliers de personnes faire ce symbole des trois doigts levés en face de militaires qui les tiennent en joue. Ben, je veux dire, à un moment donné, ces images-là, elles sont aussi une force parce que ça permet aussi de montrer qu'on résiste et de montrer qu'on est là. Et je trouve vraiment, et je le redis, très méprisant de mépriser ce symbole-là. Voilà. C'est pour ça que je voulais en parler.
Parce que nous, on a plein de gens qui sachent.
Ouais, ça doit être ça.
Ça doit être ça. Et je voudrais juste quand même terminer en partageant le bilan en fait au 22 avril. Donc c'était jeudi 22 avril, je le précise parce que on enregistre vendredi 23, qui est fait en fait par l'association d'assistance aux prisonniers politiques birmans. Donc je les cite. Au 22 avril, 739 personnes sont maintenant confirmées comme mortes. Tués par la junte militaire birmane. Donc, c'est le chiffre qui a été vérifié par cette association et il précise le nombre réel de décès est probablement beaucoup plus élevé, mais eux n'affirment que les choses qu'ils ont pu confirmer. Donc, évidemment, ça va prendre un temps fou, mais en même temps, j'ai envie de te dire, même s'il n'y avait que 10 morts, ça sera déjà de trop. Donc là, on est à 739. Au 22 avril aussi, on a un total de 3370 personnes qui sont en détention. Parmi ces 3370 personnes, 76 sont condamnées, 1099 ont reçu des mandats d'arrêt, et parmi eux, 20 ont été condamnés à mort et 14 ont été condamnés à 3 ans de prison avec travaux forcés. Donc voilà, je ne sais pas si ce sujet vous aura servi à grand-chose, mais je trouve que c'est toujours intéressant quand même de revenir sur l'historique, etc. Ouais.
Je voulais juste revenir sur ce qu'on disait par rapport à Total. Ouais. Par exemple, Total, on sait qu'ils ont fait travailler sur leur chantier des gens qui étaient condamnés aux travaux forcés. Juste pour que vous voyez le lien qu'on faisait tout à l'heure, ces condamnations-là, quand on condamne les gens à des travaux forcés, bah c'est par exemple aller creuser pour mettre un pipeline d'une multinationale.
Ouais. Ouais, non mais. Et puis c'est pour aller prendre la place de ceux qui vont peut-être faire grève et qui seront arrêtés à leur tour.
Exactement.
Voilà. Je termine encore une fois juste. J'ai envie de vous conseiller deux trois sites pour se tenir informé de ce qui se passe en Birmanie parce que c'est toujours des fois c'est des pays alors on partage pas la langue etc donc on a encore moins d'infos. J'en ai quand même deux trois donc c'est Info Birmanie. Qui, depuis 1996, a pour principale mission, c'est d'informer et de sensibiliser à la situation politique, économique et sociale en Birmanie. Bon, alors évidemment, hein, afin de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Donc, c'est info-birmanie.org. Et un autre site aussi, c'est Asialist, site d'information 100% numérique dédié à l'Asie, donc bien plus largement que juste la Birmanie, mais vous y trouvez des analyses vraiment très intéressantes. Et je rebondis vite fait, puisque je n'ai pas le temps d'en parler non plus, mais Asialist a publié un article justement sur la déclaration du patron de Total. Et vraiment, c'est très intéressant sur la construction économique du pays, fait que forcément, Total, finalement, collabore avec les assassins au pouvoir en Birmanie. Il y a évidemment l'association que je vous ai citée tout à l'heure, c'est l'association d'assistance aux prisonniers politiques de Birmanie, association évidemment à but non lucratif hein, de défense des droits de l'homme qui est basée en Thaïlande. Elle a été fondée en 2000 par d'anciens prisonniers politiques qui vivent donc en Thaïlande, en tout cas à la frontière entre Thaïlande et Birmanie. Et alors, cet asso, c'est simple, c'est aappb.org. On vous mettra tous ces liens sur le site de la causerie parce que je pense que vraiment c'est intéressant aussi que chacun et chacune de vous et de nous puisse aussi être autonome dans sa recherche, etc. et vous puissiez continuer à suivre ce sujet. Et juste vite fait, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils, en tout cas ici, qui traduisent les choses. Et il y a en birman un site qui est intéressant aussi, c'est Democratic Voice of Burma, et c'est dvb.no. Vous allez dessus, vous recopiez l'adresse de l'article que vous voulez traduire, vous mettez ça dans votre traducteur Internet et vous avez les informations. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant et on vous mettra encore une fois toutes ces adresses-là sur le blog de la causerie pour que vous puissiez vous en servir aussi. Et on apporte évidemment le soutien, même s'ils ne nous entendront jamais, mais aux Birmans et aux Birmanes qui se battent. Et pas forcément, alors évidemment, il y a ceux et celles qui sont là pour libérer leur leader qui est Aung San Suu Kyi. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des profils très différents. Il y a aussi des anars et des punks et tout ça, on en écoutera tout à l'heure. Birman, donc je ne suis pas sûr qu'ils soient tous eux derrière Aung San Suu Kyi, mais que, encore une fois, entre ne pas soutenir Aung San Suu Kyi et envoyer chier la dictature militaire birmane, je pense qu'on peut trouver largement sa place quand on est progressiste, révolutionnaire, anarchiste de ce côté-ci du globe. Voilà. Fab, tu voulais rajouter un dernier petit truc?
Ben, juste dire que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont des liens avec la Birmanie ou qui sont eux-mêmes birmans réfugiés en France, des choses comme ça, eh ben, c'est sans souci qu'on peut se rencontrer pour voir si on peut faire quelque chose, une émission un peu plus peut-être fouillée, je dirais, avec des gens qui ont des liens viscéraux, comme on dit. Mmh. Et c'est, voilà, ce sera avec plaisir. Ouais. Voilà, c'est juste pour le dire.
Tu fais bien de le dire.
Et du coup, on s'écoute des punks, là, c'est ce que tu disais ?
Ouais, c'est ça. On s'écoute un son qui vient de Birmanie.
Donc, il y a des punks au Liechtenstein, mais aussi en Birmanie, a priori.
C'est exactement ça. On s'écoute ça et on se retrouve après. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. On vient de s'écouter, comme promis, du punk birman. Le groupe, c'était Rebel Riot, avec le titre One Day. Et vous pouvez retrouver leur musique sur une plateforme internet d'images et de musique et tout ça. Hein, pour ne pas la citer, YouTube.
Voilà. Et surtout, vous pouvez surtout retrouver les paroles qui sont vachement bien.
Oui. Oh oui.
Voilà.
Donc, ah oui. Alors par contre, les religiophiles d'ici, vous allez mal le vivre en fait, hein, parce qu'ils font chier un peu les religions. Donc voilà, il ne faudrait pas que vous soyez trop heurtés. Eh bien, c'est Fab qui prend la suite. Et là, comme tu disais, hors micro, le grand écart. Et ouais. Bien, après la Birmanie, nous avons passé à Britney Spears.
Et oui. Qui l'eût cru, n'est-ce pas? Alors, en fait, effectivement, sujet pas forcément plus léger, mais différent. Non. Parce que voilà, c'est ça qui est enfin, peut-être moins impactant, mais quand même qui a un fond, vous verrez, qui n'est pas juste de la carrière de Britney. Ce n'est pas l'idée. Donc oui, je vais vous dire, au départ, moi, je ne pensais pas du tout faire un sujet sur les dessous de la visibilité et de la gloire, hein, personnellement. Puis, en fait, j'ai regardé un documentaire autour de la carrière de Britney Spears, et plus précisément, parce que ce qui était mis en avant m'intéressait, c'était comment une femme célèbre, riche, s'est-elle retrouvée mise sous tutelle et curatelle par un tribunal américain. Alors, je vais juste rappeler et faire une parenthèse, tutelle et curatelle, ça veut dire que vous perdez tout droit sur votre vie, hein, concrètement. Et c'est quand même assez dingue de se dire qu'on peut être Britney Spears et être dans cette situation-là. Alors, soyons clairs, hein, le documentaire en question, ce n'est pas Voici qui l'a fait, hein, du tout. C'est un documentaire qui a été fait par le New York Times et des journalistes du New York Times. Son titre, c'est Framing Britney Spears. Alors, si on traduit, hein, ça veut dire piéger Britney Spears. C'est bien cela dont on va parler, hein, ce soir. Enfin, ce soir, là, c'est l'après-midi, mais pour vous, c'est le soir. Comment on peut utiliser, pressurer, chosifier une personne et la réifier au point de lui retirer toute humanité et ne la voir que comme une vache à lait qui rapporte. Alors, le documentaire, il va donc s'attacher aux faits, ceux qu'on connaît, hein, ceux qu'on connaît déjà, et ceux qui sont explicités après une enquête journalistique sérieuse menée par plusieurs journalistes donc, du New York Times. Et honnêtement, l'enquête est plutôt très bien faite et elle est basée principalement sur des tête-à-tête avec des gens qui étaient proches de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais aussi sur de la recherche documentaire et des choses comme ça. Donc, on va nous parler de l'ascension de la jeune Britney Spears, qui va monter jusqu'au sommet de la gloire. Alors, on oublie souvent, hein, moi, je l'ai redécouvert dans ce documentaire, pourtant, Britney Spears, elle est de ma génération, hein, donc voilà, que son premier titre mondialement connu sort l'année de ses 17 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle était assez jeune. Hein, voilà. Et puis, on va nous parler de sa chute hein, quand elle décide de se raser la tête, quand elle défonce une voiture à coups de parapluie, quand sa vie sexuelle et personnelle se retrouve étalée dans les médias, et pas que dans les médias people, hein, je tiens à le dire, hein, dans tous les médias, quand elle passe pour une salope qui trompe son petit ami, quand elle se voit retirer la garde de ses enfants. Et si on suit l'histoire telle qu'elle nous a été contée hein, jusqu'à maintenant par médias interposés, tout est de la faute de cette pute de Britney, hein, pour être clair. Et d'ailleurs, elle en jouera elle-même en créant un slogan qui est « I'm Britney Bitch », qui en fait peut se comprendre de deux façons, soit « Je suis Britney sale pute », soit « Je suis Britney la pute ». Donc voilà. Et elle ira jusqu'à en faire un slogan, mais qui finalement, quand on a vu le reportage, sonne différemment de ce qu'on imaginait au départ. Et c'est là que l'enquête journalistique prend tout son sens. Sur Internet, il y a des groupes de fans qui demandent qu'on libère Britney. Alors, moi, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, c'est qui ces allumés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, libérer Britney? Enfin, on en est où? Et j'ai repensé à cette fameuse vidéo « Leave Britney Alone » qu'on a tous vue avec ce jeune homme qui pleurait. Et en fait, en s'intéressant à ces groupes, les journalistes découvrent qu'il y a une info qui n'a pas été vraiment suivie. C'est le fait que Britney Spears est donc sous tutelle de son père et d'un avocat depuis maintenant plus de 12 ans. C'est énorme, 12 ans, hein, dans la vie de quelqu'un, mais ça fait 12 ans. Comment il est possible qu'une personne comme elle puisse se voir donc privée de ses droits les plus élémentaires? Ses tutelles ont la gestion de sa fortune, de sa carrière. Donc, c'est-à-dire que les prestations qu'elle fait sont sous les ordres de ces deux tutelles et de sa santé. C'est-à-dire qu'ils peuvent la faire hospitaliser quand ils le souhaitent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est juste hallucinant.
Oui, ils l'ont d'ailleurs fait interner plusieurs fois. Sans qu'elle ne demande quoi que ce soit, en fait.
Tout à fait. Et on voit d'ailleurs même que des médecins se demandent ce qu'elle fait là. C'est un peu, voilà. Et donc, on est quand même dans un pays, hein, les USA, qui met en avant la liberté individuelle avant tout. Et c'est ce qui, justement, interroge ces journalistes. Comment, en fait, on en arrive là, en fait? Et là, en fait, les journalistes, ils vont remonter les faits. Et l'histoire qu'on nous a vendue, elle est bien plus glauque et malsaine que ce qu'on pense. D'abord, on nous présente qui est concrètement Britney Spears. Britney Spears, au départ, c'est une jeune fille du sud des USA, croyante, attachée à des valeurs morales fortes, et qui chante dans une chorale. Très clairement, Britney Spears, c'est ça au départ. Elle est projetée par ses parents dans un univers qu'elle ne connaît pas, celui du show business, et elle va passer en fait par Disney, qui va en faire une de ses égéries, vous savez, les jeunes égéries du fameux Disney Club aux États-Unis. Voilà. Il y en a plein qui sont passés par là, Miley
Oui.
Cyrus et d'autres. Hein, voilà. Tout le monde remarque d'ailleurs à ce moment-là qu'elle a un talent inné, une voix extrêmement modulable, c'est-à-dire qu'elle peut chanter très bas et très haut, et que c'est une bosseuse et qu'elle est perfectionniste. Donc, en fait, elle a un petit peu tout pour réussir. Après Disney, elle va se lancer dans une carrière solo. Et en même temps, en fait, c'est le moment où elle va devenir femme. Et le problème, c'est qu'elle devient femme devant les caméras et les paparazzis. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai découvert quelque chose que je n'imaginais pas, que ce soit à ce point-là. C'est qu'en fait, aux États-Unis, on vous pousse à vendre votre vie. C'est-à-dire que tout le monde l'encourage à dire, fais-toi le plus photographié possible, c'est bon pour toi. Sauf que elles sont encouragées à faire ça par leurs agents, mais ça prend une proportion inimaginable quand elles commencent à être connues. Au départ, c'est pas trop gênant, hein. Elle a quelques paparazzis qui la suivent, deux, trois personnes, sa carrière n'a pas encore vraiment décollé. Mais quand elle explose, c'est juste hallucinant. Imaginez-vous vous déplacer avec entre 40 et 60 personnes qui sont là pour prendre des photos de vous. Pardon. Pour prendre des photos de vous. D'ailleurs, les journalistes montrent que cela ne plaît pas forcément à l'artiste. Ils ont retrouvé des images, en fait, où elle dit clairement, arrêtez de me suivre, arrêtez de me photographier, alors que la plupart des paparazzis affirment qu'ils n'ont jamais entendu Britney Spears se plaindre. Voilà. Et en plus, on va l'enfermer dans un rôle de petite fille modèle de l'Amérique. Et c'est un rôle qui ne lui convient pas. Elle n'aime pas cette image-là qu'on essaie de lui donner. Donc, elle va donc faire sa première rébellion en obligeant ses agents et sa maison de disques à revoir leur plan. En fait, elle va créer un univers, celui de son clip Baby One More Time. Pour ceux qui s'en souviennent, elle est habillée en écolière. Au départ, elle devait être habillée en écolière, gentille, bien habillée. Elle va en fait faire un nœud avec sa chemise pour sexualiser en réalité son image, ce qui n'était pas trop prévu au programme. Et donc, elle va imposer une sexualité mutine et une forme de domination féminine dans sa façon d'être dans son clip. Très clairement, ça ne plaît pas ni à ses producteurs, ni en fait aux ligues de vertu américaines. Hein. Mais elle a envie déjà de montrer que elle n'est pas la gentille petite fille qu'on voudrait bien nous vendre. Elle va croiser dans sa vie un certain Justin Timberlake et en tomber amoureuse. Voilà, donc ils vont être en couple. Et elle va dans une interview répondre très sincèrement à des questions qui lui sont posées sur la virginité avant le mariage. Je vous rappelle que Britney Spears, elle est du sud des États-Unis, croyante et qu'elle chantait dans une chorale. Donc elle va répondre que pour elle, oui. Il est normal de rester vierge jusqu'au mariage. Personne n'est parfait, c'est ses convictions. Et elle en parle ouvertement. Et en fait, c'est une erreur. Et elle ne mesure pas à ce moment-là l'erreur qu'elle commet. Le couple va se séparer, ça arrive, hein, c'est la vie. Et là, en fait, de toute pièce, les agents des uns et des autres, hein, jouant dans le jeu, et les gens en sous-tâche, on va monter une histoire dans la presse. Britney Spears aurait donc trompé Justin Timberlake. Et c'est pour cela qu'il serait parti. Alors, c'est merveilleux, hein, parce que les producteurs de Justin Timberlake vont même lui dire, tiens, si tu écrivais une chanson là-dessus, et c'est la fameuse chanson Cry Me a River, avec un clip où on met une pseudo Britney Spears qu'on montre du doigt comme la salope à punir. Hein. Je reviens sur cette dénomination-là. Sauf que dans les faits, et c'est dit dans le reportage, et c'est prouvé, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est lui, en fait, qui a trompé Britney Spears et qui s'est barré. Mais elle a beau essayer de le dire, personne ne l'écoute. C'est devenu la méchante de l'histoire et tout le monde la voit comme ça. On la vend une fois de plus comme la salope, la vicieuse face à un gentilhomme, le gentil Adam, hein, ce Justin si gentil, trahi par la succube qu'est cette Britney Spears. Et c'est le début en fait d'une spirale terrible. Celle qui était vue comme la petite sœur idéale devient, par un montage grossier, la salope à abattre. Je vous invite d'ailleurs à voir pour ça un épisode de South Park où tout est la faute de Britney Spears, où il faut la sacrifier. Ça vient de là, en fait.
Bien, en fait, alors, vite fait, mais j'ai carrément compris cet épisode de South Park après avoir vu ce documentaire, en fait. Parce qu'effectivement, en fait, et elle est poursuivie tout le temps, partout, tout le temps. Enfin, quoi qu'elle fasse, de toute façon, c'est elle. Et c'est assez hallucinant. Oui, en fait, c'est cette chosification. Et ce qui est assez triste aussi, c'est que finalement, tu utilises les médias pour te faire connaître, sauf que d'un coup, quand ils ont accepté ce jeu-là, et ben d'un coup, tu deviens toi-même leur jouet et tu ne peux plus le remettre en question, quoi. C'est ça. Tu es soumis à, au desiderata. Desiderata.
Des médias.
De tout ce monde médiatique, etc. C'est assez hallucinant. Hein.
Et aussi de tes agents, hein, faut pas oublier.
Ah ben oui, oui.
En sous-tâche derrière. Et donc, en fait, bah, Britney Spears va continuer sa vie. Hein, elle va rencontrer quelqu'un, se marier quelques temps plus tard. Ils vont avoir deux enfants. Voilà. Et ils vont les avoir coup sur coup. C'est-à-dire qu'elle a deux enfants en moins de deux ans. Donc, voilà, c'est assez rapide quand même. Et en fait, c'est là que la rupture va se faire. Parce que ce qu'on nous avait présenté comme un pétage de plomb contre des photographes, en réalité, dans le documentaire, il le montre bien, c'est qu'elle essaye de protéger ses enfants. Elle refuse que ses enfants soient photographiés, utilisés, et parce qu'elle estime que, bah, OK, elle existe en tant qu'objet médiatique, mais ses enfants n'ont pas à subir le fait qu'elle soit un objet médiatique. C'est parfaitement compréhensible. Et le pire, c'est qu'il démontre et il montre qu'elle l'exprime clairement, verbalement. Elle le cache pas. Mais non, sa vie lui appartient déjà plus, ni celle d'ailleurs de ses enfants, du point de vue des photographes et de la presse. Hein. Alors, bah, elle décide de casser l'image. C'est le fameux rasage de crâne, vous savez, dont on a tant parlé, et qui, en fait, est un appel au secours, en réalité, mais que personne n'a entendu. Moi, je n'avais même pas compris à l'époque pourquoi elle faisait ça. Je m'étais dit, elle fait ça pour faire quelques likes de plus sur Internet. Et en fait, non, c'est un vrai appel au secours. Et en fait, elle ira en fait, jusqu'à s'en prendre à la voiture de photographe avec un parapluie. Il faut savoir que dans le même temps, on lui a retiré la garde de ses enfants parce qu'avec toute la construction qui a été faite, elle est jugée hystérique parce qu'aux États-Unis, ça existe encore. Vous pouvez être jugé comme hystérique. Et si vous êtes hystérique, eh ben, on vous retire la garde de vos enfants. Voilà. Eh ben, je vous laisse vous découvrir tout le reste parce que je ne vais pas vous raconter tout le documentaire, mais découvrir d'ailleurs le fait que des photographes n'ont aucun regret sur ce qu'ils ont fait. Découvrir comment un père qui était absent et violent, parce que c'est ce qu'on comprend à demi-mot, bah, revient dans la vie de sa fille, devenue star et millionnaire, hein, quand même, et en obtient donc la tutelle et donc réussit à capter l'ensemble de la fortune de sa fille millionnaire. En fait, c'est simple, hein, on va se le dire clairement, si Britney Spears avait été un homme, rien de tout cela ne lui serait arrivé. C'est bien parce qu'elle est une femme qu'on est capable de la détruire comme ça a été fait. Elle est une adulte capable d'écrire des albums, de faire des tournées, d'avoir des résidences à Las Vegas, mais malgré tout, on la maintient sous tutelle de son père et d'un avocat en estimant qu'elle n'est pas capable, en tant que femme, d'être maître d'elle-même. Et vous découvrirez d'ailleurs dans ce documentaire que la grève, ça marche même pour les artistes, et ça, c'est un petit côté assez sympathique. Voilà. Je vais un peu élargir le propos.
Attends, juste vite fait. Vas-y. Et quand même, il y a eu un taf de dingue fait par des fans de Britney Spears, en fait. C'est quand même deux fans qui ont fait un boulot de dingue, qui ont finalement mis les journalistes sur la piste, en fait, quoi. Et c'est assez fou, en fait. Enfin, il y a quelque chose d'assez dingue dans tout ça. Et effectivement, enfin, juste vite fait aussi, sur les journalistes, en tout cas, un paparazzi en particulier qui fait ce genre de déclaration, bah le mec, t'as juste envie de lui en mettre une à travers la gueule parce que vraiment, il y a un mépris total de toute humanité chez Britney Spears, en fait. Mais vraiment, c'est assez fou, quoi.
Pour lui, c'est un objet. Hein.
Oui, vous aurez beaucoup envie de taper les gens quand vous allez voir ce documentaire.
Ah oui, mais il est très intéressant parce qu'il montre vraiment les dessous en fait d'un univers qu'on imagine de strass et de paillettes, mais qui en fait est beaucoup plus violent que ça. En fait, pour être clair, hein, on voit que l'univers globalement de l'entertainment aux États-Unis, mais dans le monde, hein, il est clairement misogyne, il est clairement parfois et souvent raciste, il est clairement aussi classiste. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier encore une fois d'où vient Britney Spears. C'est pas une fille de mania ou de riche. C'est quelqu'un qui est au départ une fille du Middle West et qui a pas de sous, hein, c'est pas voilà. Et donc il la méprise en fait, il la voit comme une petite conne, hein, en fait, qu'on peut voilà. Et donc tout ça c'est bien montré et c'est surtout très intéressant de voir et consternant plus qu'intéressant d'ailleurs de voir la violence avec laquelle le milieu artistique est profondément tout ça. À quel point, en fait, il va même jusqu'à l'assumer à un certain niveau. Aussi, les gens face caméra sont capables de dire, oui, bah toi, c'est comme ça, quoi. Mais sauf que non, on ne devrait pas. Alors, on l'avait vu avec le mouvement MeToo, hein, et ça a permis d'ouvrir des fenêtres sur ce qui se passe. Mais en réalité, ce reportage rajoute une couche sur les coulisses. Et franchement, l'odeur qui émerge des coulisses, c'est l'odeur de merde, quoi. On va être très clair. C'est étouffant, quoi. Mais encore une fois, ce n'est pas propre aux USA. Combien de stars féminines brisées en France, concrètement? Par exemple, une Loana, hein, star de la télé-réalité, qu'on regarde aujourd'hui agoniser à l'écran. Et alors les gens disent, mais elle n'a qu'à pas y aller. Sauf que c'est un cercle vicieux. Quand vous vivez de ça, bah, vous finissez par n'avoir que ça pour vivre. Donc vous allez finir par vendre votre vie et vos histoires en permanence, parce que sortir de ce cercle-là, ce n'est pas si simple en réalité. Et on... Oui?
En fait, il y a une forme de dépendance, d'addiction. Enfin,
C'est ça.
il y a presque un parallèle qu'on pourrait faire avec une drogue dure, en fait. Enfin, il y a quelque chose de, et qu'encore une fois, il y a quelque chose d'assez horrible, c'est-à-dire qu'on va rendre responsable la victime. Et là, je prends le cas de Loana, mais c'est juste, enfin, c'est terrifiant quand même. Enfin, si vous la, oui, ok, on est sur une radio rebelle, machin, milieu militant, mais je vous invite vraiment quand même à vous intéresser un petit peu au-delà de votre milieu, parce que lui aussi, des fois, il peut sentir la merde, mais et que c'est vraiment, enfin, c'est d'une tristesse absolue, et que là aussi, il y a effectivement ce rapport de classe
Bien sûr.
qu'on évacue complètement, en fait,
Mais qui est très, très
mais
réel.
qui est hyper là, en fait, faut arrêter les conneries, quoi.
Et on peut parler aussi des autres stars de la télé-réalité d'aujourd'hui, hein, qui sont vendues comme des salopes à haïr sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elles se rebellent en disant, mais attendez, tout ça, c'est monté et on est en train de me transformer, moi, en femme horrible, ce que je ne suis pas. Et on voit qu'en fait, ce qu'a subi Britney Spears il y a 20 ans continue aujourd'hui à être appliqué et de façon méthodique et en plus d'autant plus violent parce que les réseaux sociaux ont amplifié encore cette violence-là. Et on va être clair, hein, pour ceux qui pensent que c'est facile de sortir de l'engrenage, quand vous avez été décrit comme une espèce de saloperie pendant des années, allez chercher du travail après, parce que vous vous appelez toujours pareil et vous ressemblez toujours à ce que vous étiez à l'écran. Allez trouver du travail, allez demander, dire, ben, attendez, moi je suis digne de confiance quand on vous a décrit comme quelqu'un d'instable, de fou, de fourbe, de choses comme ça. C'est impossible en fait, et ça vous enferme, et c'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai pour les chanteuses. On voit combien de chanteuses sont réduites à un physique, et parfois même pour ch leur chier à la gueule, hein, comme ça a été le cas récemment de Oshi. Avec, je ne veux même pas dire le nom de l'abruti qui est allé, qui est là, parce que je ne veux pas lui faire de la pub, mais où on est allé parler du physique d'une chanteuse. C'est sa voix qui compte, le reste, on s'en fout un peu quand même. Hein. Combien d'actrices sont laissées de côté une fois la trentaine atteinte? Hein, parce que finalement, on a assez peu de stars de plus de 30 ans, quand on regarde bien, de femmes stars, etc., etc. Regardez en face les coulisses de l'industrie du divertissement, c'est le seul moyen de faire évoluer les choses. Mais clairement, ce n'est pas du tout clean ce qui s'y passe, il faut être très clair. Et qu'on soit clair, hein, l'entertainment militant n'est guère différent. Alors, je sais, quand je dis entertainment militant, ça choque. Sauf qu'en fait, si, si, on a aussi nos formules d'entertainment. Hein. Je ne citerai qu'un certain HK qui fait des chansons de lutte, hein, par exemple. Hein, ça devient un petit peu notre entertainer de lutte. Voilà. Oui, tu disais, tu
Non,
allais
mais il
dire.
y a aussi des entrepreneurs de la lutte, en fait, hein.
Oui, voilà.
Des
Donc,
journalistes qui font leur carrière sur les luttes, etc. C'est évidemment, c'est une réalité. Enfin, ne pas le regarder, c'est
donc,
aussi se mentir, hein.
eh bien, il est guère différent parce que si c'était différent, on aurait plus de femmes au micro, on aurait derrière les caméras plus de réalisatrices, on aurait d'autres choses et d'autres femmes pour faire d'autres trucs. Sauf qu'en fait, ces femmes, elles existent, c'est juste qu'on ne les met pas en avant, hein, tout simplement, faut être clair. Donc le monde, oui, il est patriarcal et oppressif et en premier lieu pour les femmes, c'est une évidence. Mais sauf que l'industrie du divertissement, elle est à l'image du monde, en fait. Elle n'est pas différente. Quand Hollywood vous vend une image très très progressiste, on se rend très vite compte qu'en fait c'est qu'une image, hein, parce que c'est de l'entertainment. Donc voilà, ben, c'est un peu pareil en France quand on vous dit tout est réglé parce qu'on a trois chanteuses qui sont connues maintenant, donc tout va bien. Sauf que non, on voit bien qu'on continue à mettre toujours les mêmes en avant et que la chanteuse, elle va venir faire des duos avec des hommes. On ne va pas lui offrir la soirée, il ne faudrait pas déconner quand même. Voilà. Donc deux choix, changer l'un pour changer l'autre ou inversement. Voilà, j'ai pas trop de solutions, mais en fait c'était juste voilà. Donc oui, en fait je peux vous conseiller de voir l'excellent reportage Framing Britney Spears parce que très honnêtement, même moi que je pensais pas que ça m'intéresserait, ça m'a juste halluciné de voir ça et surtout c'est un vrai travail journalistique très intéressant et très bien fait. Et en fait, ben je vous invite aussi à vous poser la question des gens qu'on nous donne à haïr sur les réseaux sociaux ou autres et le pourquoi en fait on nous les donne à haïr. Et encore une fois, comme le disait Jean-Yves, le rapport de classe, c'est quelque chose de très important. Et je vais juste le dire comme ça, c'est marrant comme on peut détester Jul et Aya Nakamura quand on encense un Vianney. Voilà. c'était juste voilà pour parler de tout ça. Et ben on va faire une petite pause musicale, moi, que vous ayez quelque chose à ajouter.
Moi, je crois que tu as tout dit, hein. Et Clara, non, elle veut rien dire.
C'est vrai aussi, parce qu'il ne faut pas croire qu'on l'empêche de parler.
Oui, c'est ce que vous voulez faire croire.
C'est de l'entertainment, tout ça.
C'est ça, exactement.
C'est grave, ça.
Et en tout cas, moi, je vous propose d'écouter une petite musique des années 30, mais que vous allez reconnaître. Allez, on se retrouve allez, juste après. Aussi.
Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup.
Can
Don't you know that you're toxic?
Je vous l'avais dit dans la causerie au 102.2 sur Radio Canut Power que vous reconnaîtriez cette chanson. Et oui, c'était Postmodern Jukebox avec Melinda Doolittle qui faisait une reprise très années 30 du titre de Britney Spears, Toxic. Voilà. Et c'était vachement bien. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, ça montre que c'est un bon titre. Parce que quand on peut reprendre un titre et que ça fasse quelque chose de bien, c'est souvent que c'est un bon titre.
Ok. Ou qu'on n'est pas... Tout simplement.
Ou qu'on dévend tout simplement. Bon, mettez ça sur le dos de ce que vous voulez.
C'est ça.
Donc, Jean-Yves, tu avais une petite brève et info à donner.
Ouais, alors bah déjà, je voudrais vite fait faire une toute petite brève, un petit truc égocentrique. Il faudrait quand même savoir que la petite causerie, elle a fêté ses 8 ans.
Et oui.
C'était le 5 mars. Alors, avec tout ce décalage vraiment dans le temps, etc., on a beaucoup. Avec le fait d'enregistrer les montages, les diffusions, le jour J, etc., on est un petit peu décalé. Il faut nous excuser. En même temps, peut-être que vous, auditeurs, auditrices, vous vous en foutez. Mais nous, on est quand même contents que la petite causerie fête ses 8 ans. Elle est grande, dis donc.
Mais elle va rentrer en CM2, hein, ou CM1.
C'est ça.
Voilà.
Chic, chic. Elle va bientôt dire des gros mots. Alors...
Je crois que c'est déjà fichu. Hein.
Oui, c'est ça. Elle est à l'image de ses papas et mamans. Pardon. Non, et plus sérieusement, quand même rappeler que la semaine prochaine, il y aura le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la fête du muguet, ce n'est pas la fête du travail, ce n'est pas la fête à Pétain. Hein, c'est la journée de lutte internationale en mémoire aussi des anarchistes qui ont été arrêtés, emprisonnés, tués et qui se sont suicidés un jour dans les siècles passés à Chicago. Donc, dans le cadre de ce 1er mai, évidemment, il y a un défilé, en tout cas une manif. C'est donc le 1er mai à Lyon, place Jean Massé, à 10h30, comme quasiment tous les ans, et certainement qu'on ira terminer sur Bellecour, même si j'en ai pas encore la certitude. Mais voilà, l'info est donnée, donc on vous donne rendez-vous le 1er mai dans les rues lyonnaises. Et évidemment, si vous nous écoutez d'ailleurs, d'une autre ville, renseignez-vous autour de vous. Il y a forcément aussi une manif pour le 1er mai. Voilà.
Je peux vous souhaiter qu'on ne passe pas dans ces manifs les titres d'HK et les saltimbanques. Oui, toi, je ne l'aime pas.
Toi, tu vas avoir des problèmes.
le comité de soutien qui va bêter.
C'est ça. Et attention que les comités de soutien ne deviennent pas comités de censure.
C'est pareil.
Et ben, on va se quitter après avoir fait encore une longue émission. Désolé pour ceux et celles qui voudraient entendre des bandes continues, mais elles vont pas tarder. Mais avant ça, on va se quitter avec le titre, encore un titre de Altarba, vous me direz, mais je suis absolument fan, vous le savez. Et le cabinet des curiosités a repris, donc tous les vendredis, on a un nouveau titre. Et là, je vous présente le titre de la semaine dernière. C'est donc Altarba avec Stapfinger ainsi que KDS. Et le titre, c'est Nocturnal Birds. Et ben, avec ça, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et bon courage pour la semaine à venir.
Ouais.
On vous donne rendez-vous dimanche prochain ou plus tard, et sinon, on vous met dans la rue.
Voilà. Parce qu'ils nous reconnaissent, parce qu'on est à la radio, souvent, ils ne savent pas qu'on reconnaît, mais bon.
Alors, des fois, s'il m'arrive de rire dans la rue, peut-être, on ne sait jamais, ça pourrait parler à quelqu'un et se dire, tiens, ce rire. Enfin bon, n'hésitez pas à le faire savoir, hein, si c'est le cas. Bon, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, on vous fait des bisous, et puis à bientôt.
À bientôt, des bisous.
Ciao, ciao.
yes, we burned in the night, and yes, we heard and we still fight.